France Inter. Simon Le Baron. Le 7-10.
Nous sommes le lundi 8 avril et bonjour Anaïs Feugat.
Bonjour Simon, bonjour à tous.
À la une de l'actualité ce matin, la justice retient l'assassinat dans l'affaire de Viry-Châtillon.
Et la mort de cet adolescent de 15 ans roué de coups. Quatre jeunes hommes sont sous les verrous depuis hier soir. Le retour à Khan Younes des Gazaouis quelques heures après le retrait de l'armée israélienne. Israël qui dit se préparer à son offensive sur Rafah. Les politiques français pour ou contre TikTok, la question se pose à quelques mois des Européens. Et puis encore un festival Van Der Poel hier sur le Paris-Roubaix et des coureurs incrédules.
Les invités du 7-10 d'Inter ce matin à 7h50, Alexandra Ben Saïd, votre invité.
C'est un des écrivains les plus lus dans le monde et chacun de ses livres est un best-seller, l'affirme, l'affaire Pélican, c'est lui. John Grisham nous présente ce matin son dernier ouvrage et en citoyen engagé, il partage son regard sur une société américaine divisée et une présidentielle à haut risque.
À 8h20, le grand entretien de la matinale, 6 mois après l'attaque du 7 octobre en Israël, 6 mois de guerre à Gaza avec Sylvie Kaufmann du Monde, Dov Alphon de Libération et Michel Goya, historien militaire. Et puis à 9h20, Mélissa Theuriot, journaliste et productrice de documentaires, sera au micro de Mathilde Serrel.
France Inter.
Pourquoi et comment s'acharner sur un adolescent de 15 ans, le rouer de coups jusqu'à ce que mort s'en suive? La question hante les habitants de Viry-Châtillon et bien au-delà. Après la mort du jeune Chemseddine tabassé devant son collège jeudi, mort le lendemain à l'hôpital des suites de ses blessures, il faut protéger l'école de ça, a dit Emmanuel Macron en fin de semaine. Ce matin, on en sait un peu plus. 4 jeunes hommes ont été mis en examen pour assassinat cette nuit. 2 d'entre eux écroués dans la soirée, les 2 autres mineurs incarcérés progressivement. Delphine Evenou, le scénario de l'agression se dessine peu à peu.
Plusieurs jours avant l'agression, 2 frères de 20 et 17 ans apprennent que leur sœur de 15 ans discute de sexualité avec des jeunes de son âge. Les frères, explique le procureur de la République d'Evry, s'inquiètent pour sa réputation et celle de la famille. Ils obligent plusieurs garçons à couper les ponts, mais Chemseddine, lui, fait savoir autour de lui qu'il n'a pas subi de pression et qu'il continue de parler librement avec la jeune fille. Jeudi dernier, les 2 frères, accompagnés de 2 amis, croisent Chemseddine aux bord du collège. Il lui demande de les suivre dans un hall d'immeuble pour s'expliquer. Le ton monte, les coups partent, l'adolescent tombe. Le grand frère appelle les secours, dit à la police avoir vu plusieurs jeunes cagoulés s'enfuir à pied pour brouiller les pistes et les 4 agresseurs repartent chez eux. La jeune fille n'était pas présente au moment de l'attaque, mais selon le procureur, elle savait ce que ses frères envisageaient de faire. C'est pour cela que l'information judiciaire ouverte porte sur des faits d'assassinat qui impliquent une notion de préméditation.
L'un des avocats des jeunes conteste d'ailleurs la notion d'assassinat. Il parle de coup mortel sans intention de donner la mort. La jeune fille a été placée dans un établissement éducatif avec interdiction de se rendre dans le département de l'Essonne. Dans l'Yonne, la mère de la petite ville d'Avallon, 6000 habitants, est en garde à vue depuis hier, ainsi que 2 de ses frères et 4 autres personnes. 70 kilos de résine de cannabis ont été découverts à son domicile. Les perquisitions de la gendarmerie dans cette opération anti-drogue ont aussi permis de saisir de la cocaïne, des milliers d'euros en billets de banque et des lingots d'or. Depuis début octobre et le lancement des opérations Place Net XXL, comme les appelle le ministère de l'Intérieur, plus de 7000 personnes ont été interpellées en France. Plus de 3 tonnes et demie de drogue saisies dans 482 opérations. Ça fait 7 kilos et demi par opération en moyenne. Est-il réaliste de régler rapidement la désertification médicale en France? Le Premier ministre s'est voulu volontaire ce week-end en annonçant en particulier l'augmentation progressive du nombre d'étudiants en médecine. De 10 800 en première année actuellement, on passera à 12 000 en 2025, puis 16 000 en 2027. Ça veut dire plus de 5 000 étudiants supplémentaires d'ici à 3 ans. Le milieu réagit ce matin. Pousser les murs des universités ne va pas se faire en un claquement de doigts, estime Benoît Weber de la conférence des doyens des facultés de médecine.
Les capacités de formation sont actuellement déjà pleines. On peut dire que la plupart des facs ont touché le plafond de verre de la formation. Et donc, si Monsieur Attal veut augmenter massivement le nombre de médecins formés, il faut qu'il s'en donne les moyens. Et je rappelle juste que ces médecins ne sortiront que dans 10 à 16 ans. Notre difficulté, c'est qu'on manque des médecins hospitalo-universitaires qui sont nécessaires pour former ces jeunes générations. Donc il faut des moyens supplémentaires pour former plus de médecins. Ça veut dire augmenter le nombre d'enseignants, chercheurs, et puis ça veut dire aussi avoir les moyens architecturaux, logistiques, dans les facultés, avoir des locaux de restauration de taille suffisante, avoir des amphis de taille suffisante. Et donc, il y a toute une logistique à mettre en place, en effet. On va donc être amené à discuter avec nos ministères de tutelle pour pouvoir accompagner cette augmentation des moyens nécessaires.
Benoît Weber, président de la conférence des doyens des facultés de médecine avec Laurent Kramer. Et pendant qu'on forme des étudiants, on s'interroge aussi sur les salariés les plus âgés. La dernière séance de négociation entre patronat et syndicat débute tout à l'heure, mais pourrait bien se prolonger dans la nuit sur les plus de 60 ans, obligés désormais de travailler 2 ans de plus depuis le passage de la réforme des retraites. Le patronat souhaite instaurer pour ses seniors un CDI spécial, ce qui permettrait, dénoncent les syndicats, une mise à la retraite d'office, ce qui est interdit.
Il est 7h06. Malgré les mises en garde des États-Unis, Israël se prépare à lancer son offensive sur Rafah.
La ville du sud de la bande de Gaza où s'entassent près d'1,5 million de Palestiniens. Le ministre israélien de la Défense a dit hier soir que les soldats se préparaient à la suite de leur mission dans cette zone. Quelques heures plus tôt, les troupes s'étaient retirées de Khan Younes, une ville de 400 000 habitants avant la guerre, réduite à l'état de ruine après plusieurs mois de combat. Et malgré cela, hier, dès l'annonce du retrait de l'armée israélienne, les habitants réfugiés à Rafah ont entrepris le voyage retour entre désolation et espoir, comme cette femme dont Valérie Crova recueillit le témoignage.
Dès qu'elle a appris le départ des troupes israéliennes, Samira a sauté dans un taxi.
On était tous surpris. On n'a pas imaginé que les Israéliens ont quitté les villes. On a resté sur les informations. Pour s'assurer qu'ils ont quitté Khan Younes, on a décidé d'y aller voir.
Aller voir son appartement qu'elle a dû quitter il y a 3 mois, sur ordre de l'armée israélienne, et qui, à l'instar de Khan Younes, a subi d'importants dégâts.
C'était un peu difficile parce qu'elle était touchée des attaques israéliennes. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'internet. Mais on est obligé de vivre cette situation.
Des semaines durant, Khan Younes a été le théâtre de frappes aériennes incessantes et de combats acharnés entre le Hamas et l'armée israélienne qui affirme avoir démantelé le mouvement islamiste dans la ville.
Ils ont détruit beaucoup des tunnels, des maisons.
Samira ne s'en cache pas. Le retrait des soldats israéliens lui a redonné l'espoir d'un cessez-le-feu. Mais pas seulement.
Beaucoup de monde déteste le Hamas, déteste les gens de Hamas, ne veulent pas que le Hamas reste ici. Et on veut que la guerre finira un jour.
Son souhait le plus cher est de fêter la fin du Ramadan à partir de demain soir chez elle, à Khan Younes, entourée de sa famille.
Un drame au large du Mozambique avec le naufrage d'un bateau de pêche, au moins 90 morts, des habitants pris de panique devant de fausses informations sur l'épidémie de choléra en cours dans le pays et qui tentaient de fuir la terre ferme. La désinformation, enjeu majeur des prochaines élections européennes avec aussi les risques d'ingérence étrangère. En France, la méfiance est de mise concernant les réseaux sociaux. Le candidat de Place Publique, Raphaël Glucksmann, a décidé de fermer son compte TikTok. Le réseau social chinois est très populaire chez les jeunes. Il a été investi ces dernières années par les politiques avec ce dilemme, Élodie Fauré, y être ou ne pas y être.
Quitter TikTok, question de cohérence, explique Raphaël Glucksmann sur France 2.
Ce réseau social, c'est une pompe à donner au service du Parti communiste chinois. Et donc, je ne me voyais pas faire le mariole sur TikTok tout en dénonçant les ingérences étrangères.
Le candidat qui, selon nos informations, veut même demander une commission d'enquête sur le réseau. Mais sur ce credo, anti-TikTok, il est bien seul. La tendance, c'est plutôt de créer son compte.
Bonjour, je suis Marie Toussaint, je suis députée écologiste et tête de liste.
Le président du RN, Jordan Bardella, lui a depuis longtemps surinvesti le réseau. Dans les meetings désormais, de nombreux jeunes l'ont découvert par ce biais, comme ces 2 militantes de Besançon.
C'est le dernier que j'ai regardé.
Il y a 5 ans, vous m'aviez accordé votre confiance.
Je suis fan, voilà.
Très suivi aussi, les comptes insoumis pour le député Antoine Léaumont, 500 000 abonnés. Focaliser le débat sur TikTok est une erreur.
Il y a des questions qui sont posées avec l'ensemble des réseaux sociaux, avec le groupe Meta en particulier. Je ne crois pas que Monsieur Glucksmann compte arrêter son compte Instagram qui, lui, pour le coup, marche bien. Ou bien alors, il y a des ingérences qui ne posent pas de problème. L'ingérence américaine, ça va, tout le monde est d'accord. Et puis, il y en a qui posent problème.
Antoine Léaumont, pour qui déserter TikTok reviendrait aussi à laisser le champ libre à une extrême droite, présente massivement sur le réseau chinois.
Élodie Fauré, puis en Amérique du Nord, on rejoue le temple du soleil. 30 millions de personnes vont pouvoir observer aujourd'hui une éclipse totale de soleil. Elle débutera au Mexique, traversera les États-Unis et se terminera au Canada.
Un an après leur prise de parole, le combat est encore long.
Le combat de ces femmes qui accusent Gérard Depardieu d'agression sexuelle. C'était il y a presque un an, le 11 avril, Mediapart publiait les témoignages de 13 femmes. L'acteur était alors déjà mis en examen pour viol et agression sexuelle suite à la plainte de la comédienne Charlotte Arnoux. Depuis, deux nouvelles enquêtes ont été ouvertes. L'acteur est éloigné des plateaux de tournage. Mais pour celles qui ont parlé, le temps ne passe pas vite, Faustine Calmel.
Anna a raconté sur France Inter son agression sexuelle par Gérard Depardieu, sa main en poignant l'entrejambe de la jeune femme en plein tournage. Dégoûtée de la manière dont elle a été traitée sur les plateaux en tant que femme, cette technicienne a quitté le cinéma. Mais ce qui a changé, dit-elle, c'est que maintenant, on la croit.
La première fois que j'ai parlé de ce que j'avais pas été réellement entendue, c'était vraiment post-MeToo et on prenait pas vraiment en considération mes paroles. En ça, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est vraiment différent. Il y a beaucoup plus d'attention aux mots et de vigilance en tout cas.
L'autre effet de ces dénonciations, c'est que l'acteur aux plus de 200 films ne tourne plus. Celui qui a longtemps été surnommé monstre sacré du cinéma français vacille de son piédestal. Et pour Sarah Brooks, qui a dénoncé des agressions sexuelles en 2015 sur la série Marseille, ce n'est qu'un juste retour des choses.
On avait besoin que les gens comprennent que c'était un type dangereux, qui mettait des gens en danger dans le cadre de son travail mais aussi dans sa vie personnelle et qu'il utilisait son image et son aura pour ça. Donc ouais, je suis contente que son image elle ait changé et qu'on ait tous pris conscience que c'est un type dangereux, qu'il y en a plein des comme ça et qu'il ne faut plus jamais accepter ce genre de comportement.
Pourtant, le harcèlement sexuel se poursuit. Des amis d'Anna restés dans le cinéma le lui rapportent régulièrement. Les deux femmes regrettent aussi le très long temps judiciaire. Gérard Depardieu est mis en examen pour viol depuis plus de 3 ans.
C'est une très mauvaise nouvelle pour les organisateurs des Jeux Olympiques. France Inter vous dévoile ce matin que l'eau de la Seine n'est pas conforme pour la baignade. L'ONG spécialiste de la propreté des eaux Surfrider Foundation publie une nouvelle étude. Parmi les 14 prélèvements effectués depuis le mois de septembre, 13 sont mauvais. Les détails dans le journal de 8h. Et puis lui vient d'écrire une nouvelle page dans un palmarès déjà bien fourni. Le cycliste Mathieu Van Der Poel, vainqueur hier du Paris-Roubaix, a réussi 2 incroyables doublés d'un coup. Vainqueur de Paris-Roubaix 2 années de suite, une semaine seulement après avoir remporté le Tour des Flandres. Et avec à chaque fois une attaque fulgurante, une échappée en solitaire. Le Néerlandais de 29 ans, petit-fils de Raymond Poulidor, a une nouvelle fois impressionné le peloton entier, Fanny Le Chevestrier.
Semaine après semaine, classique après classique, c'est la même petite musique. L'hymne néerlandais qui résonne à l'arrivée et des coureurs sous le charme de VDP.
Ah ouais, du respect.
Des plus jeunes, comme Jordan Labrosse, 21 ans, qui découvrait hier l'enfer du Nord.
Il change un peu le vélo à attaquer aussi loin de l'arrivée. C'est vraiment quelque chose de beau ce qu'il fait, et avec la classe en plus.
Jusqu'aux coureurs les plus aguerris, comme le suisse Stéphane Küng, 30 ans, et qui chaque semaine tente en vain de faire vaciller le phénomène.
C'est clair. Un jour, je pourrais raconter à mes enfants que j'ai couru avec le fameux Mathieu Van Der Poel. À la fin de la journée, on doit aussi accepter quand il y a des gars plus forts et je leur félicite.
Le plus agaçant peut-être dans l'histoire, c'est que les records, Mathieu Van Der Poel n'en fait même pas une obsession. Vainqueur à 29 ans de 6 monuments du cyclisme sur route, presque sans forcer.
C'est pas vraiment quelque chose que je pense beaucoup. C'est juste, ouais, j'aurais jamais rêvé comme enfant que j'aurais gagné toutes ces courses. J'étais juste en train de faire du cyclocross à ce moment, donc c'est incroyable.
Incroyable. Comme le fait de réaliser le doublé Tour des Flandres Paris-Roubaix avec le maillot arc-en-ciel de champion du monde sur le dos. Une première depuis 62 ans.
Et on rappelle, pour les fans de cyclisme, 62, c'était le Belge Rick Van Looy.
Oui, il faut être fanat de cyclisme pour cette info. Merci. Anaïs Vega, le Zoom, dans 3 minutes et toute la semaine sur Inter, on s'intéresse à la famille, à ses modèles et à leur évolution. Ce matin, la coparentalité.